bonsoir à tous. Radio Paloma. Alors oui, la dernière, le fameux forum, donc ce vendredi 16 novembre, avec des invités. Bon, on retrouve à peu près les mêmes à chaque année. On a Jean-Jacques, Arnaud, Jean-Michel et Jean-Mathieu avec nous. Et par téléphone aussi, on va avoir tout de suite d'ailleurs Valérie et Monsieur Verdet. Bon, on va juste donner la parole. On va donner la parole à Valérie, puisqu'elle est là déjà. Bonsoir Valérie.
Oui, bonjour. Oui, bonsoir, pardon.
Alors, on voulait avec toi faire un petit peu le point sur cette migration. Alors,
d'accord, mais on peut en parler. En fait.
Oui, ouais, commence.
Donc, en fait, comme chaque année, on a organisé ces comptages donc du 15 octobre au 11 novembre. Cette année, on finit avec un total de palombes qui sont passées. Quand on enlève le retour, donc on a 2 201 000 palombes. Donc, c'est une très bonne année. Ce que je peux dire, c'est par rapport à l'analyse de la saison, c'est qu'on a eu 3 pics de migration. Donc les pics se sont situés aux alentours du 22, 23, 24 octobre pour le premier pic, donc sur 3 jours, avec plus de 30% de la migration, puisqu'on a eu quasiment 700 000 oiseaux sur ces 3 journées. Ensuite, on a également eu un second pic, donc qui s'est étalé sur 3-4 jours, donc du 28 octobre au 31 octobre, avec 35% de la migration, il y a eu plus de 770 000 oiseaux encore sur ce pic. Et enfin, le dernier pic s'est situé le 7 et le 8 octobre et le 8 novembre, pardon, avec 26% de la migration, soit plus de 580 000 oiseaux sur ces deux journées. Donc, on s'est rendu compte cette année, avec 9 jours de migration, qu'on a eu 93% de migration. Donc, une migration qui a été un peu plus diffuse sur les 4 postes cette année, parce que l'an dernier, c'était passé plus sur la côte. Cette année, c'est passé quasiment pareil sur tous les postes, puisqu'on a sur Rune 30% de la migration. On a eu sur Sarre 26%, sur Banca 24% et sur Arnegui 20%. Donc vraiment une migration sur tous les postes, je pense, qui a satisfait un peu tous les chasseurs de la région.
Oui, les palombes, ouais. Vous comptez les palombes en retour, si on rappelle. Hein.
Alors en fait, là, les 2 200 000 oiseaux, ce sont le total de palombes passées, moins celles qui ont fait le retour.
D'accord.
Parce qu'il y en a qui font le retour un jour et qui repassent le lendemain, donc on ne peut pas se permettre de les compter, de ne pas les soustraire en retour. Quoi.
D'accord, ça ferait doublon, ouais. En gros.
Oui, tout à fait.
Parler des balises à Argos aussi, tu peux en dire un petit mot.
Oui, bien sûr. Alors, par rapport aux balises Argos, donc actuellement, donc en février là, 2012, on en avait équipé quelques-unes donc dans le sud-ouest donc des Landes et une dans le nord. Donc pour celles qui sont du sud-ouest, il nous reste encore des oiseaux que l'on suit là. Donc pas mal d'oiseaux ont bien marché, les balises ont bien fonctionné. Donc une qu'on avait équipée dans les Landes d'Abanos et qui était restée dans les Vosges pour nicher. Elle a entamé sa migration donc relativement tard, puisqu'elle a débuté sa migration le 22 octobre. Et actuellement, elle se trouve en Côte d'Or et elle y est depuis le 25 octobre. Donc c'est peut-être possible aussi qu'elle reste sur cette zone pour hiverner, donc c'est à suivre. Donc elle émet toujours, jusqu'à hier, elle émettait encore. Pour celle qui était également équipée dans les Landes, une a été partie donc nicher en Biélorussie. Celle-ci a entamé sa migration à partir donc du 15 octobre et elle est en cours de migration. Là, elle se situe dans le Bas-Rhin pour l'instant. Elle n'a pas bougé du Bas-Rhin. Donc, on se rend compte que c'est des palombes qui ont traversé quand même la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, le Bas-Rhin. Là, elle est dans le Bas-Rhin pour l'instant et c'est vrai qu'elle elle y reste un petit moment. Donc, c'est assez étrange parce que tous les oiseaux qu'on suit là, il n'y en a qu'un qui est arrivé en région et tous les autres sont encore donc en région plus nordique, donc mais toujours en France. Mais donc à savoir, est-ce que c'est des oiseaux qui vont rester un petit moment là avant de continuer la migration ou est-ce qu'effectivement ils ne vont pas revenir sur la zone d'hivernage traditionnelle, ils vont rester peut-être plus dans des départements plus au nord des nôtres. Donc une autre donc qui avait été équipée dans le Gers, elle qui avait niché en Pologne, et a de nouveau fait sa migration, et elle se trouve depuis le 29 octobre dans le département du Cher, près de Bourges. Donc c'est aussi assez original. Une autre qu'on avait équipée aussi dans le Gers, qui avait niché donc en Hongrie, elle était passée elle, par l'Hérault et l'Italie. Elle est de nouveau repassée en Italie, et elle est actuellement dans le Var depuis le 12 novembre, elle y est toujours là depuis 3 jours. Elle aurait, elle serait passée elle, par vraisemblablement sur la mer entre l'Italie et le Var. Hein. Donc voilà, donc ça s'assure. À voir si elle revient mais, dans le Gers ou si elle part du côté de la Catalogne. Une autre, donc qu'on avait équipée aussi dans les Landes, qui était partie nichée en Allemagne. Et celle-là, elle se trouve actuellement en Dordogne, près de Périgueux en fait, donc depuis le 10 novembre. Voilà, donc ça c'est les oiseaux qui ont fonctionné. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'oiseaux qui ont fonctionné, qui fonctionnent encore. Et un oiseau donc qu'on avait équipé dans le Nord, on en a équipé deux dans le Nord. Un, on en avait équipé un en fait en mars 2011, qui lui est toujours dans le Nord, donc c'est un sédentaire, un oiseau sédentaire. Et un autre oiseau qu'on avait équipé donc en février 2012 de cette année, et qui, lui, a commencé donc en fait une migration le 14 octobre, et il est descendu dans le département de l'Aisne, il est en région, enfin au nord de la région parisienne, on va dire, et là, il y est depuis le 4 novembre. Donc, c'est possible que l'oiseau qu'on a équipé donc en hiver l'an dernier, mais passe l'hiver en région parisienne. Donc, ça, c'est intéressant aussi comme information. Donc, voilà, par rapport aux balises argos, ce que l'on peut dire, c'est qu'elles ont bien fonctionné. On a eu des trajectoires de migration de printemps mais très variées, des oiseaux qui sont équipés sur des mêmes sites, qui peuvent très bien aller en Pologne, en Allemagne, en Hongrie ou rester en France. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et donc là on continue, on va suivre ces migrations pour voir si justement ils ne descendent pas plus au sud. Et ça va être aussi intéressant de recueillir ces informations, quoi.
Et on fera un bilan général quand, à peu près?
Et là, on va attendre que les oiseaux s'installent bien en hivernage, parce qu'on a encore certains oiseaux, je pense qu'ils vont un petit peu bouger. Et on pense, mais d'ici, là on est mi-novembre, d'ici quand même fin novembre, début décembre, avoir une position bien stable de ces oiseaux, quoi.
D'accord. Et on pourra avoir le bilan non, sur le site,
oui,
du GIF.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on a effectivement recréé, relooké notre site internet. Donc il faudrait, pour ceux qui veulent se connecter et regarder toutes ces informations, se connecter en fait sur gif-france.com.
D'accord. Mais Valérie, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Quelqu'un d'être rebondir, Arnaud, je sais pas.
Bon. Non, c'est avec beaucoup de précision, Valérie nous a donné ça. Je remercie, je te salue Valérie.
Bonjour. Ouais.
Et bon, après, il y a des comptes qui sont scientifiques de la part de Valérie, c'est-à-dire qu'elle a tenu compte des mouvements de recul, et c'est tout à fait normal. Moi, je vais avoir une approche beaucoup plus synergétique, et je vais dire qu'à Urugne, si je ne tiens pas compte des mouvements de recul, il est passé 34% de la Palombe, 24% à Sarre, 22% à Banca, et 17% à Arnegui. Donc ça veut dire que quand même, on a quand même un glissement légèrement vers l'ouest, et j'ose même pas parler, on va y revenir après, de la Soule et du cirque d'Odaïsakia, parce qu'en prenant le chiffre, en prenant le chiffre d'Orgamileshka, 90 000 palombes sur un total compté de 2 540 000, si on les rajoute, ça fait 3,5% de la migration.
Oui, et lorsqu'on parle d'Orgamileshka, c'est 90 000 que mon ami Jean-Michel n'a pas vu. Parce que toi, tu as compté à peu près 42 000, c'est ça?
40-45 000.
Donc, peut-être qu'il est passé 90 000, parce que Béthuel, un jour, a dit qu'il est passé beaucoup de palombes. Mais en ce qui concerne le ravin, fait depuis l'Aro jusqu'à Saint-Sémile, Audichard et compagnie, on a vu 50 000 palombes. Alors, non, là, c'est pas 3%, c'est 2.
Ça fait peur.
Voilà, ça fait peur, oui. Ça fait très peur.
Bon. Merci Valérie, tu es toujours là?
Oui. Oui, je suis toujours là.
D'accord. Voilà, donc là, on a donné une série de chiffres. J'espère que tout le monde a bien suivi. Merci beaucoup et à très bientôt.
Oui, merci, à bientôt. Oui, au revoir.
Au revoir. Alors, on va parler maintenant donc, avec nos invités. On va parler un petit peu de cette saison. Je ne sais pas, on commence par toi, Jean-Michel. Tu disais donc 45-50 000 palombes. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Hein.
Oh, ben, oui, le seul point positif pour nous, c'est que la saison a été meilleure que l'an passé.
Ouais.
Bon, plus sérieusement, ces passages sur la côte, ça laisse rêveur. Moi, ça fait plus de 30 ans que je chasse à Irati, et je me redis chaque année, mais quand on arrive au col le matin, et qu'on voit le complexe de lac avec les fusées, les fumées, des cheminées à l'est, je crois que pour nous, la journée est fichue. Vers 10h, 10h30, les fumées se redressent un petit peu. Là, on voit quelques palombes rentrer dans le cirque d'Irati, et puis à 13h, 14h, c'est terminé, la journée est finie. Alors moi, je pense que tant qu'on aura ce vent d'est en pleine de bon matin, les palomes ne monteront pas à Irati.
Ouais. Il y a eu un gros passage, on a cherché, c'était quand, 550 000 là.
Il y en a eu deux.
Ouais, il y a eu deux. Il y a eu le 29 octobre, il y a eu
le 23 et le 7 novembre.
Ouais, aussi, ça, le 7 novembre, d'accord. Ouais. Très bien. Toi, Jean-Baptiste, puisque
oui,
tu es là.
Oui, un très gros passage, effectivement. Il y a eu 550 000 palombes de passé, mais Irati.
Un jour,
effectivement. Mais sur Irati, Jean-Michel, il en est passé 6 000.
Un peu plus de 14 000, je crois, que tu avais compté. Ah.
Bon, c'est pareil, il était passé 400 000, et c'est donc là, il y avait 6 000 palombes sur Irati.
Ouais, c'est un peu
désolant de voir tout ça, quoi. Et Jean-Michel, tu disais que tu avais. Que tu fréquentais Irati depuis 30 ans. Moi, je suis depuis 50 ans, 49 ans exactement, avec un fusil à la main. J'ai commencé à Olzarte, puis en cabane, pas loin d'Olzarte. J'ai tiré au vol. Tout à l'heure, tu m'entendras parler contre les tireurs au vol, mais j'ai tiré au vol et je revendique ça fortement. J'ai toujours tiré dans l'école sur la frontière. Je n'ai donc pas gêné les autres chasseurs avant. Mais c'est vrai qu'au fil des années, et ce, surtout depuis 10 ans, ça diminue au niveau des passages.
Oui, moi, juste pour rebondir, tu as raison, Jean-Baptiste, tu as absolument raison. Lorsqu'on parle d'Irati, c'est parce qu'on y chasse aussi qu'on en parle. Mais moi, je voudrais revenir à la soule. Parce que c'est pas seulement Irati, quoi. Le problème, c'est la soule qui est désertée par les palombes. J'entendais dire encore une personne hier, qui est pas chasseur du tout, qui dit j'ai pas vu un seul vol cette année sur mon lion. Ah bon, il avait passé un peu, très peu. Mais je veux dire par là qu'il y a 30 ans ou il y a 40 ans, on sortait sur la place de la Haute-Ville, sur la place des Allées à Montléon, on levait la tête quand il faisait bon temps, on voyait des palombes. Donc c'est la soule tout entière qui est privée de palombes. Et résultat, bien sûr, à Irati, il n'y en a pas, mais comme il n'en passe pas en soule, c'est assez difficile d'arriver à Irati. Et ce couloir qui alimentait toute la montagne qui venait d'Oloron, de l'Anne, etc., il existe, mais il est devenu tout petit. La fameuse autoroute des palombes est devenue assez rétrécie. Et en plus de ça, quand elle prend la montagne en soule, elle prend à partir de Lick, elle tourne complètement à droite, elle prend la vallée d'Alsaï, la Carrie, elle sort sur l'école en haut qu'on connaît, de Burdine, Supply, etc., Rantzuz. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la topographie du terrain, il n'y a pas un coup de fusil. Moi, j'ai mon cher beau-frère que j'adore, qui chasse à la Madeleine au vol. Et j'ai beau lui expliquer, et maintenant je crois qu'il commence à comprendre maintenant, toute la crête de la Madeleine jusqu'à Montléon, c'est une véritable ligne Maginot. Les palombes ne prennent plus cette crête. Sauf un jour, le 14, où ils ont eu quelques palombes avec le vent du Nord, elle ne prend plus la crête. Soit elle passe entre la Madeleine et Orx et Montory, dans la vallée de l'Anne de Montory, soit elle coupe carrément en travers depuis Oloron, elle part directement sur la mer ou peut-être à Arnay. Donc c'est la soule entière qui est privée de palombes, pas seulement Irati.
La soule sinistrée.
Alors, vous chassez tout sur Arnaud, toi Arnaud, tu chasses où, rappelle-nous.
Alors moi je chasse sur le canton de Saint-Palais, hein, donc en Pays de Mix. On est aux portes de la soule, on a encore de la chance d'avoir la palombe, c'est vrai, et cette palombe elle coupe très vite derrière nous, quoi. Hein. Donc, quelle est la problématique vraiment de cette baisse de passage? Bon, je pense qu'elle est multiple, hein. Il faut être honnête, elle est multiple. Il n'y a sans doute pas que la pression cynégétique, mais en tant que responsable cynégétique, si je réfléchissais pas à ce que pouvait induire aussi la pression cynégétique, je pense que je passerais à côté de mon mandat. Donc, effectivement, il va falloir commencer à réfléchir sérieusement. On ne sait pas proposer des interdits, absolument pas. Tous les modes de chasse ont le droit de s'exprimer, certainement, mais peut-être dans des conditions beaucoup plus précises et beaucoup mieux définies. Je pense que là-dessus, il va falloir qu'on travaille. Ça me semble obligatoire. Mmh. Sinon, c'est pas que la soule qui sera désertée, parce qu'à terme, la palombe va avoir autant de mémoire pour le couloir de Banca, pour le couloir d'Arnegui, sans doute pour le couloir de Sarre. Elle finira toujours par passer. Mais dans quelles conditions, comment, pas au bénéfice des chasseurs, ça c'est sûr.
Et on le voit encore et de plus en plus sur la mer, dans Urugne, dans quelques échos d'Urugne. Il tue très peu de palombes sur le passage. Elle passe de plus en plus haute là-bas. Ou carrément sur la mer. Arnaud, tu me faisais voir une photo l'année dernière des palombes qui passaient sur l'eau, mais pas sur la plage. Elle passait à 1 km ou 2 km du bord. Et elle va. Et je pense, hein, enfin, peut-être je me trompe, mais dans quelques années, si on continue comme ça, c'est pas Urugne qu'elle va passer. C'est à 10 km au large d'Urugne. Et le retour se fera pareil, parce qu'elle aura marre de se faire tirer tous ces vols de retour. Ils vont trouver une combine pour éviter l'endroit. Et c'est vrai qu'il faut que tu aies raison, qu'on réfléchisse tous ensemble, parce que bon, nous on a la chance d'avoir connu quand même les grandes années, mais dans 5 ans d'ici, dans 10 ans d'ici, je sais pas si les jeunes verront beaucoup de palombes.
On va poser la question à M. Verdi Cavenon. Bonsoir. Et il est parti. On va le retrouver, je pense, dans quelques instants. Juste, je reviens, oui, on parlait de la côte, mais c'est vrai qu'il y a eu du. Curieusement, par rapport à l'année dernière, il y a eu du passage à Banca et Arnigui, comme tu disais. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même une migration qui était relativement bien répartie sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a eu quand même un mois d'octobre, un automne qui était relativement clément. On a eu des jours de pluie, mais bon, on a eu un automne qui était relativement normal, clément, normal. Donc il y a eu des créneaux météo qui a permis à la palombe de passer. Donc un créneau météo multiple avec des vents qui ont été changeants. Il y a eu des vents du nord, des vents du sud. Ça a pu alimenter un petit peu tous les couloirs. Mais bon, malgré tout, dans des conditions qui sont différentes les unes des autres. Puisque moi, mes chiffres, si je ne tiens pas compte effectivement des reculs, j'ai 34% Urugne pour finir à 3,5% en Soule. Et ça va crescendo d'ouest en est, quoi, ou d'est en ouest. Donc,
Et ça se confirme chaque année, c'est ça?
Chaque année.
Bon, mais on a M. Verdet, mais on a un petit problème technique apparemment. On peut... Ça passe pas. Bon, on va rebondir sur notre sujet, si vous voulez. Oui, Jacques.
Oui, oui. On peut, non, moi je, on en a un peu parlé.
Tu as des questions à poser à...
Non, on en a pas un peu parlé avant l'émission. Moi, ce que on constate, bon, c'est vrai, on l'a lu sur les journaux, on l'a lu sur le Chasseur français, etc. C'est vrai que les couloirs ont tendance à se rétrécir. Mais les couloirs dits traditionnels existent toujours. En Dordogne, ça descend toujours. La vallée du Rhône, ça descend toujours. Donc les couloirs n'ont pas changé. Même s'ils sont plus étroits, ça veut dire aussi que sur les bords de ces couloirs, il y a moins de palombes. Mais la Soule, il y a 40 ans, c'était quand même un sacré couloir. On parle des autoroutes de la palombe, c'est une double autoroute. Et c'est que moi aussi, je suis depuis 40 ans sur le site d'Irati. Lorsqu'on voyait, il y a 40 ans, ou il y a même 30 ans, ce qui déboulait du 25 septembre au 11 novembre sur Irati, c'était faramineux. C'était tous les jours, des trains et des wagons de palombe. Donc, il y a quand même une problématique quelque part. Partout, et notre ami Popoy, qui est parti chasser en Dordogne, pourra nous le confirmer, tous ces grands couloirs, toutes ces fameuses autoroutes de palombes sont respectées. Arriver dans le nord du département ou dans le sud des Landes, c'est fini, ça change complètement. Donc il y a quand même des questions à se poser. Je n'ai pas la réponse, hein, mais il y a quand même des questions à se poser.
Alors là, je crois qu'on a M. Verdi. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, on a, en fait. Oui, on se pose beaucoup de questions ici à Radio Palombe. Est-ce que vous avez entendu Jean-Jacques à l'instant?
Oui, un petit peu. Ah. J'ai entendu votre débat sur la pression cinégétique, sur les couloirs qui donnent, qui ne donnent pas. Oui, c'est très, 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 très intéressant ce que vous dites, là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, monsieur, ouais, on peut refaire.
Oui. Vous voulez que je vous réponde sur quel thème? Parce que je prends le débat en route un peu, excusez-moi.
Hein. Peut-être sur la pensoire, hein. Peut-être sur la pression de la chasse, non?
Mais, écoutez, moi, ce que je trouve bon, pour revenir un petit peu en arrière, moi, j'ai passé toute ma saison en Dordogne, j'ai vu une migration absolument magnifique, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'oiseaux. Bon, j'avais la chance de me trouver sur le bon couloir, au bon endroit, bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais où je vous rejoins totalement, c'est que c'est pas parce que la palombe ne connaît pas la crise, si je peux dire, qu'il faut faire n'importe quoi. Moi, je trouve que plus on va, plus il y a une course au score dans cette chasse. Et ce qui me désole, c'est que j'entends des palombailles autour de moi. Tout le monde ne parle plus que de score. On dira, moi j'en ai fait 400, moi j'en ai fait 500, moi j'en ai fait 600. Je ne sais pas où on va, mais moi je ne crois pas à la génération spontanée. Et je pense qu'il faudrait savoir raison garder si on veut profiter longtemps encore de notre passion. Parce que cette année, beaucoup d'excès ont été commis. Voilà. Et pas, je ne parle pas de la Dordogne seulement. Dans les Landes, c'est pareil. Tous les endroits où les palombes passent, c'est à celui qui en fera le plus. Et je regrette beaucoup.
Nous, ce n'est pas le cas. Hein. Vous le dites de suite. On n'est pas assez sans palombe.
Je sais bien, mais votre problématique, bon, c'est toujours la même. si vous voulez, à partir du moment où les Landes, enfin les Landes, je m'entends, les Landes, plus que le département, on peut y associer le Gers, une partie, la première partie des Pyrénées Atlantiques. Bon, quand le garde-manger est plein, comme c'était le cas cette année, entre le maïs et les glands, les palombes, elles s'arrêtent, elles ne vont pas plus loin. Donc vous, derrière, vous n'avez plus qu'une migration à regret, on pourrait dire, hein, des palombes qui un jour décident, tiens, on va aller voir si toutes les conditions sont remplies, on va aller voir un peu ce qui se passe sur la montagne. Mais sur la migration franche et nette, si vous voulez, vous n'en avez quasiment plus. Puisque moi, je vois, je suis en liaison avec pas mal d'amis, pas le maire, et quand je leur annonce un gros passage sur la Dordogne, des amis à moi qui sont dans le Piémont béarnais, bon, ils me disent, mais c'est pas possible, on ne voit rien venir. Mais oui, parce que tout s'arrête devant. Bon, les palombes s'arrêtent automatiquement sur les Landes, puisque le garde-manger, le restaurant est ouvert, et elles ne vont pas plus loin. Voilà. Tout est faussé par ça, on en revient tous les ans à la même chose, au même constat.
Oui, bon, c'est vrai ce que vous dites. Elle a changé son mode migratoire et son mode alimentaire, ça on le sait. Par contre, ce qu'on regrette nous un peu, c'est qu'elle a changé quand même le couloir ici. Quand vous dites, bon, elle passe pas, il allait quand même passer 2 millions et demi, grosso modo, même s'il y a 40 ans, il en passait 10 millions. Enfin, c'est des estimations, il n'y a pas de comptage, on ne sait pas. Mais il en passait certainement beaucoup plus.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'il en passe quand même sur Arnégui, sur Banca, et il en passe de plus en plus sur la mer. Pourquoi change-t-elle de couloir?
Et elle ne change pas. Elle choisit la route la plus facile. Ce qui est vrai, c'est qu'elle refuse la haute montagne, quoi. Parce qu'elle choisit le plus simple, je crois. Hein. Voilà. À part ça, que dire? Oui, il est passé, bon, en enlevant le recul, ça fait 2 millions d'eux. De palombes un peu plus, comme en 2005, en 2008, ce qui est une très très belle saison. Et ça fait déjà longtemps qu'elle ne monte quasiment plus sur l'Iranti, hein, c'est clair. Voilà, alors, elles ont choisi la route la plus facile, elles se sont adaptées, on ne peut pas dire qu'il en passe plus qu'autrefois sur la côte, il allait toujours passer dans la vallée de Roncevaux et tout, on ne découvre pas ça d'un coup, hein.
Mais pourquoi, vous savez, à Arnégui, je sais que vous connaissez la montagne parce que vous étiez venu dans ma cabane il y a fort longtemps, à Irati. Pourquoi continue-t-elle à passer à Arnégui? Ibagny est à Le Col, c'est pas la plage. Il est quand même à 1057 mètres d'altitude et elle passe à 1300, 1400. Hein.
Ah, non, mais c'est vrai que, elle refuse un peu cette montagne les trois quarts du temps. Bon, après, elles savent que vous êtes là, donc elles ont une bonne raison de ne pas venir, quoi. Hein? Non, mais pour être sérieux, c'est vrai que c'est... On peut étendre ça beaucoup plus, parce que si on remonte un peu dans l'historique de la chasse de la palombe, bon, il faut quand même savoir que autrefois on chassait la palombe au filet également dans les Hautes-Pyrénées. Bon, il y avait des très très grands passages dans les Hautes-Pyrénées en haute montagne. Bon, elles ont d'abord arrêté quasiment de passer là, et puis après, ça a glissé petit à petit, et après, elles ont arrêté de monter vers la Haute-Soule. Bon, voilà, alors elles se cantonnent, elles glissent là en bas pour aller passer sur les points les plus bas. Mais même, comme vous dites, l'Arnégui, c'est pas un point bas. Hein. Mais c'est moins haut quand même, c'est moins dur que pour monter jusqu'à Irati. Voilà.
Bon.
Je sais pas, moi c'est un simple constat, hein. c'est pas une nette explication. Parce que pourquoi elles refuseraient cette montagne? Parce qu'elles sont trop tirées en bas? Elles sont aussi tirées plus à l'ouest, hein. Elles sont tirées partout.
Ouais, un peu moins. Parce que lorsqu'on regarde quand même le terrain, il n'y a pas des collines à 700, 800 mètres d'altitude comme on a ici, ou 600 mètres les premières, la Madeleine par exemple. Les premiers contre-force, c'est vrai que ça monte d'un coup. Derrière, à 5 km de là, c'est la plaine. Et là, ça monte d'un coup. Et sur le département, et dans les Landes, et dans le Gers, il n'y a pas des collines aussi hautes. C'est une véritable barrière qu'elle arrive en face de ces collines.
C'est vrai, bon, y a le problème aussi du vent. Hein. Les vents dominants cette année, ça a été très souvent du sud-sud-est. Peut-être pas sur chez vous, mais
oui.
Nous, c'est du vent du sud-sud-est. Donc là, elle ne va pas monter. Elle préfère glisser vers la côte, c'est clair. Hein.
Ouais. Voilà. Mais il y a eu aussi du vent du nord, elle n'est pas montée.
Oui, mais c'est vrai. belle journée, là, vers le 22, je crois. J'ai un ami qui était vers le pic d'Ory, qui m'a dit qu'il avait vu un passage absolument superbe. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois bien que c'était le 22 ou le 23.
23,
voilà, c'est ça. Ouais. Et il a vu des palombes passer en quantité, et personne n'était là. Personne ne les tirait. Le lendemain matin, évidemment, le téléphone avait fonctionné, mais ce jour-là, il m'a dit, j'ai vu un passage merveilleux comme je n'avais pas vu depuis longtemps. Voilà.
Bon, il faudra nous dire où il s'est mis, parce que nous, on y était. Et, je peux vous dire, j'ai mon copain à côté de moi qui chasse à Audichard, vous connaissez, c'est le col derrière la cabane qu'on avait.
Moi, je peux vous dire.
Il a compté 14 000 palombes. Donc, c'est un beau passage, c'est 120 vols, c'est ça, non? 120 vols, c'est vrai qu'on prendrait ça tous les jours, mais en même temps, il en passait 550 000 ailleurs, quoi.
Alors, je peux vous dire très précisément où il était. Il était exactement derrière Holzart, vous voyez.
Béthune.
Oui, plus loin, un petit peu plus loin. Voilà, là-bas.
Oui, il en est passé parce qu'il y a eu un monsieur qui a téléphoné en disant qu'il avait vu énormément de palombes, que c'était féerique à Béthune. Mais bon, moi, j'aimerais savoir ce qu'ils appellent féerique. Quand il passe 550 000 à côté, ça, quand il est passé 207 000 ce jour-là à Arnégui, je pense que c'était féerique à Arnégui. Moi, j'ai connu à Irati une journée à 350 000, c'était en 86 ou 87. Je peux vous dire que c'est féerique. Mais 14 000, c'est pas féerique. Hein.
Apparemment, bon, je peux vous dire, je peux pas vous donner son nom, mais c'est une personne.
Non, mais je vous crois.
Personne digne de foi qui travaille à l'ONCFS, vous voyez, qui connaît la chasse et qui connaît les palombes.
Non, mais je vous crois. Il suffit qu'il voit 100 vols, comme il y a eu sur Yati, 100 vols, c'est beau, à voir. Hein.
Et ça dure
un moment. Hein.
Bien sûr. Voilà. Mais on est toujours sur les mêmes débats, quoi. Hein. Alors évidemment, il y a ceux qui sont contents, mais ceux qui le sont moins. Bon, ceux qui étaient au nord de la Garonne cette année, je m'entends pas partout, sur le fameux couloir central, il y a eu vraiment un passage énorme. Pour la bonne raison que les palombes arrivaient sur le massif central, comme il faisait très très mauvais temps sur la vallée du Rhône en bas, vous vous souvenez, il y avait plein d'orages.
C'est vrai, c'est vrai.
Un temps épouvantable. Donc elles ont glissé, il y avait beaucoup de vent de sud-sud-est en plus, elles ont glissé sur le flanc ouest du massif central. Donc ça a apporté un surplus d'oiseaux vers l'ouest. Et je peux vous dire que sur la Dordogne, l'ouest du Lot-et-Garonne, l'entre-deux-mer, il y a eu encore un passage énorme. Hein. Moi, je le vois avec le comptage sud-ouest. La personne qui fait le comptage au-dessus de la Lende, la Prétignac, en Dordogne, c'est son record. Il n'a jamais eu autant d'oiseaux sur sa cabane, quasiment de toute sa vie. Vous voyez.
Ah, oui, on le voit. Il y a un outil ici qui s'appelle palombe.com, que vous connaissez bien sûr.
Oui.
Et c'est vrai que on lisait tous les jours beaucoup de palombes.
Ah, et c'est bon, mais c'est toujours ce fameux couloir. Là, cette année, vous voyez, c'était le centre de la Dordogne, le plein cœur de la Dordogne, Périgueux-Bergerac. Bon, on allait quasiment jusqu'à la Corrèze, et ça descendait après l'ouest du Lot-et-Garonne jusqu'à l'entre-deux-mer, vous voyez. Mmh. Et ça rentre sur les Landes girondines, et après, ça rentre sur le massif landais, voilà. Et ce qui est plus curieux, c'est qu'en fin de saison, vous avez eu un passage qui s'est fait, alors par l'axe, normalement, devrait vous intéresser. Il y a eu un beau passage. Vous voyez, Cévennes, Montagne Noire, Haute-Garonne. Et c'est les palombes qui sont arrivées par l'est. Donc, et ça, c'est les palombes qui peuvent monter chez vous. Et ces palombes-là, elles sont allées directement se stocker dans le Gers. Il y a eu un gros arrivage fin octobre, début novembre, dans le Gers, par ce couloir.
Oui, mais il en est quand même passé, là, parce que le 7-8 novembre, je ne sais plus les dates, elles sont quand même parties, puisqu'on a compté 550 000 encore de nouveau.
7-8 novembre, oui.
7-8 novembre, donc je pense, et en principe, enfin, ça peut être ces palombes-là, parce qu'elles venaient complètement en travers, mais on les voyait arriver de direction Gers, quoi, ou des Hautes-Pyrénées. Je peux vous en parler, parce que j'étais à Oskiche, et on regardait ces palombes qui arrivaient très très loin avec les jumelles complètement en travers, et elles venaient de l'Est.
Voilà, c'est ça. C'est ça, mais alors il y en a qui sont montés là sur ces deux jours, le 7-8, ça a été le dernier rush, quoi, le dernier grand rush sur les Pyrénées, mais ça faisait plusieurs jours qu'elles arrivaient comme ça par ce couloir.
Mmh. Voilà. Qui était autrefois le meilleur couloir pour alimenter la Soule, l'autre Soule.
Et oui, mais moi ce que je raconte toujours, c'est que c'était votre meilleur couloir, mais il y en avait un autre dont on ne parle plus, parce qu'il s'est complètement tari, c'est un couloir qui descendait quasiment au cœur du Massif central par le Cantal, vous voyez,
oui.
Par le Cantal, la vallée, la haute vallée de la Dordogne, limite du Lot et de la Dordogne, le Fumélois, le Villenevois, vous voyez, oui. Et après il descendait sur le Gers. Bon. Maintenant, dans le Gers, ils ne chassent plus les palombes au passage, ils chassent les palombes uniquement quand elles sont arrivées pour hiverner, vous voyez, quand elles sont sur les champs. Il n'y a plus de vrai passage sur le Gers. Tout ce couloir, c'est un rue. Alors que ce couloir, il allait directement chez vous. Vous voyez, mmh. Et là, je vois cette année, bon, je suis originaire du Lot, de la haute vallée de la Dordogne, de j'ai des amis qui me disent, oh, on a revu des palombes. J'ai dit, combien? 5000. 5000 palombes. Bon, d'accord, sur un mois, c'est bien, ils ont tué quelques-unes. Mais autrefois, sur le même couloir, ils passaient, en un mois, ils passaient 200 000 palombes. Vous voyez? Donc, et ce couloir, il donnait directement chez vous. Et ce couloir, c'est complètement taré. Voilà.
Bon. Après, il y en a qui s'enflamment très vite. Hein. Ils voient deux vols, ils en ont vu 40
voilà.
Aussi.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est toujours la même chose. Pas de.
Merci beaucoup, monsieur Verdet.
Je vous en prie.
Et à très bientôt.
Avec grand plaisir.
Allez, bonsoir, bonsoir. 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 Parce qu'on a un auditeur qui veut poser une question. Je crois que c'est Thierry. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir. Oui, oui excusez-nous de vous avoir fait attendre.
Oui,
oui, bonsoir, vous voulez poser... oui, allez-y.
Bonsoir à tout le monde. Donc moi, je voudrais intervenir, en fait, ce serait pour essayer de trouver des solutions, parce que c'est vrai que là, tout le monde étale un peu ce qu'il a vu dans le passé. Et il y a quand même un problème, c'est qu'au fil des ans, là, on n'essaie pas de trouver de solution. Donc c'est quand même un peu dérangeant. Qu'on se dit, il n'en passe plus, il en passait il y a 20 ans, là il n'en passe plus, et personne met sur la table, personne ne se dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour essayer de retrouver des palombes en Soule et sur Irati. Donc ça c'est, je pense qu'il faudrait quand même réfléchir là-dessus, mais pas réfléchir dans 20 ans, et je pense que c'est essayer de réfléchir rapidement.
C'est pas un qui veut répondre.
Ben, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on soit d'abord d'accord sur le constat. Donc aujourd'hui, il y a plein de constats qui circulent. Donc la problématique des réserves landaises, la problématique des ressources alimentaires, la problématique des couloirs latéraux qui se tarissent, la problématique de la surchasse, la problématique des vents. Et je pense que finalement, tout le monde a certainement un petit peu raison. Voilà, on est arrivé dans une autre période, il y a une modification migratoire. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse, et c'est pour tirer des conclusions, pour trouver des solutions, j'aimerais qu'on revienne beaucoup sur le passé, mais sur un passé plus lointain. Je pense qu'il y a quelqu'un qui serait intéressant d'interroger un jour, c'est Monsieur Luquet, qui est une bible ouais. Au niveau de la connaissance de la palombe, qui pourrait nous dire s'il y a eu dans l'histoire des retournements comme ça de couloirs migratoires. Est-ce que ça a déjà existé ou pas? Je pense qu'il y a des archives, il doit les connaître, peut-être qu'il pourrait nous poser des...
Ouais, ouais. Alors, bon, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est, bon, par rapport à ce qui s'est passé, mais surtout, se dire aussi ce qui se passe, il y a quand même des explications. Une explication, on pourrait se dire pourquoi la palombe ne passe plus. Elle ne passe plus, peut-être parce qu'elle n'a plus de nourriture en Espagne, et peut-être parce qu'elle se fait massacrer en Espagne. Parce que ça, je pense que personne n'en parle réellement. On sait très bien, vous allez sur YouTube, sur Internet, vous voyez les vidéos des chasseurs, alors européens, je ne vais pas forcément citer des Français, mais il y a pas mal de Français, qui vont là-bas et qui chassent 60 palombes à la journée. Donc ça peut être quand même un fait assez grave. On peut aussi parler peut-être d'une solution, il y a des chasseurs qui l'évoquent, ça serait comme ce qui se fait sur la bécasse, ça serait pourquoi pas utiliser des PMA sur la palombe. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, tout un tas de faits ou de solutions qu'il faudrait, je pense, apporter.
Ça, ce serait une réponse. Bon, d'abord, il n'y a pas besoin d'aller en Espagne pour voir des vidéos où il y a des cartons qui sont sur la palombe. On peut aller en France, dans des départements nordiques comme les nôtres, au-dessus des nôtres, je veux dire. Il n'y a pas de problème, il y a le même style de chasse et de pression synergétique. Donc on n'a pas de grandes leçons à donner aux Espagnols en matière de gestion synergétique, je crois, loin de là. Après, est-ce qu'on a une problématique d'effectifs de palombes? Certainement, je pense qu'on a moins de palombes aujourd'hui qu'il y en a eu à 30 ans. Je veux dire, il y a des études de Barietti, même s'il est un petit peu fantaisiste au niveau des chiffres, qui annonçaient quand même des chiffres beaucoup plus conséquents que ceux qui passent aujourd'hui. Mais les dernières études de l'ONCFS notamment montrent qu'on est quand même sur des effectifs relativement stables en niveau tendance ces dernières années. Il n'y a pas de tendance significative de baisse. même si on constate moins de migration. Globalement, la Palombe se porterait plutôt bien. Résultat des courses, mais les instances françaises, et puis une pression du monde agricole, parce que la Palombe est nuisible aussi dans certains départements, il faut être conscient.
Mais ce qui nous dérange quand même à nous, on va dire, sur Irati, sur la Soule, c'est que la Palombe qu'on voit, c'est quand même celle en majorité qui passe en Espagne. Donc j'imagine bien que si l'effectif de cette Palombe qui passe se réduit tous les ans, pourquoi ? Parce qu'elle se fait quand même tuer énormément de l'autre côté. C'est sûr que l'année suivante, elle va plus passer. Donc c'est quand même une contrainte à ce niveau.
Non, je suis d'accord avec vous par rapport à ça.
On risque de plus l'avoir. Donc ça c'est un fait. Bon, un autre point aussi qu'on peut apporter, c'est, on va dire, tous les tirs au vol qui se trouvent devant Irati, et en même temps toutes les palombières qui se sont montées là pendant 20 ans. Alors il y a eu une polémique l'autre jour, mais moi je remonterai aux palombières qui se sont montées jusqu'au niveau de Paris et ces palombes qui sont chassées en continu. Donc tout ça, c'est je pense que ça a un effet aussi, on va dire, négatif sur le passage sur Irati.
Alors, je sais pas si c'est un effet négatif sur le passage d'Irati. On est globalement sur les tendances du GIF avec une migration qui est relativement constante ces dernières années, même si on a des fluctuations interannuelles, parce que le GIF ne compte pas non plus, enfin il compte toujours sur la même période, mais il ne compte pas toujours tous les passages. Cette année, il était relativement exhaustif. Donc le contingent migrant, il n'est pas significativement plus bas. Le problème, c'est qu'elle ne prend pas Irati. Et c'est ça le souci qui se pose à nous.
Quand même par rapport à il y a 20 ans, quand on sait que... je ne vais pas revenir sur des chiffres, mais faire un abattage, mais juste pour dire que dans les années 66-76, il y avait quand même 40 millions de palombes comptées.
Il n'y a pas trop de comptage. Là je m'emmène un peu parce que moi j'y étais là quand même depuis 40 ans en haut. Non, il passait énormément de palombes, c'est vrai.
Ouais, voilà.
Après, bon, 40 millions qui passaient en Espagne, c'est quand même énorme.
C'est pas moi, mais c'est des scientifiques qui le disaient. En 85, donc on passe de 40 millions à 5 millions. Donc ça, c'est encore des scientifiques qui le disaient. Et aujourd'hui, on se retrouve à 2 millions. Donc on peut imaginer que sur le manque de 3 millions, s'il passait 3 millions sur Irati, ça irait quand même beaucoup mieux.
Vous chassez dans quel secteur ?
Moi, je chasse sur Irati. Hein. Donc je chasse sur Irati, j'ai chassé sur Milagate cette année. Et donc voilà, bon, moi, je pense qu'il faudrait... il faudrait trouver une solution, apporter des réponses. Alors, ça peut se faire au niveau de la fédération, ça peut se faire au niveau européen. Voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire quelque chose aujourd'hui et de pas repousser comme on le fait depuis 10-15 ans où on se dit on verra ou il faudra voir.
Ouais, je peux essayer de vous répondre. Il y a depuis 6 mois, 1 an, il y a des chasseurs qui se regroupent là en réunion et qui commencent à étudier, qui prennent conscience, qui ont pris déjà conscience de ce problème. Et les réunions vont reprendre là maintenant après la saison de chasse. Et on parle de tout ça. Mais moi, je crois que Arnaud l'a dit là, dans une émission, moi je l'ai redit après. Je crois que d'abord, il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on fasse une table ronde avec les tireurs au vol, avec les chasseurs en cabane, chasseurs à l'affût, les filetiers, le syndicat de Soule, la Fédé, avec nous, et Arnaud est en face, je sais qu'il acceptera, et qu'on évoque tous ces sujets, et qu'on voit ce qu'on peut faire. Là, aujourd'hui, à la radio, on va rien régler, ça c'est clair.
Oui.
Là, on fait un constat.
On peut déjà faire un constat et essayer, bon, pourquoi pas trouver des solutions, mais surtout se dire, écoutez, il faut quand même le faire demain, et pas attendre
que
se discute au niveau de la fédération, et pourquoi pas tirer aussi des éléments, comme on dit. Alors voilà, c'est par exemple le PMA. Le PMA qu'on a sur les bécasses, on l'a pas sur la palombe. Il y en a qui veulent pas en parler. Bon, moi j'en parle, je suis favorable ou pas favorable. Mais se dire, voilà, ça c'est un élément qui
Mais est-ce que ça va la faire revenir ici? C'est ça le problème.
Oui.
Est-ce que ça va la faire revenir?
Alors c'est sûr que aujourd'hui, si on fait rien, ben ça sera, moi je pense que ça sera de pire en pire.
Oui.
Je pense qu'il faut essayer, il faut au mieux essayer de faire quelque chose.
Oui, non, mais on est d'accord. Bon, j'ai dit là, il y a 20 jours, j'ai dit il y a deux attitudes à avoir. Ou on ne fait rien en disant c'est fichu, c'est foutu, en étant impoli. On s'en va chasser ailleurs, et les gosses qui ont 20 ans aujourd'hui, tant pis pour eux, ils verront plus de palombes. La seconde idée, c'est de dire, bon, là, on va quand même essayer de se réunir, on va essayer de poser les problèmes, essayer de répondre aux questions. si on peut y répondre, si on peut y répondre. Mais peut-être que d'autres ont des solutions aussi, hein, en dehors du feu de la pression de chasse, je ne sais pas.
Mais ce qu'il faudrait, c'est que l'action soit quand même faite, je pense, par la fédération, au niveau pourquoi pas ministériel, au niveau européen, parce que il doit y avoir quand même des choses qui doivent se faire pour que ça change. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester là.
Moi, je vais vous donner mon sentiment là-dessus. Je crois que d'abord, on doit se prendre en charge, nous. Nous, d'abord. Se faire aider par la Fédé, c'est sûr, parce que nous, on ne représente rien et on ne réglera rien, ça c'est clair. Oui. Mais d'abord, se mettre d'accord sur le constat et d'accord sur les solutions à apporter. Et après, faire intervenir la Fédé, ou qu'ils soient avec nous en leur posant le problème, en disant est-ce qu'on peut faire ça, ça, ou ça, ou ça. Voilà. Et là, travailler avec eux. C'est sûr que c'est la Fédé qui va peut-être régler les problèmes ailleurs, mais c'est pas nous.
C'est-à-dire que le problème, il va être réglé de manière légale. C'est ça, c'est que nous, on peut pas dire, écoutez, on chasse pas en dessous de 800 mètres, on tire pas au vol en dessous de 800 mètres. Non, ça peut être qu'une règle législative qui peut imposer ça. Nous, on peut pas dire, on va pas pouvoir dire aux Espagnols, écoutez, vous limitez les palombes tuées par jour à 10 et non pas à 100 comme vous le faites aujourd'hui. Alors, je pense qu'en même temps, il faut certainement imposer des choses à un moment donné. Alors les dire et les imposer pour qu'on avance.
Pour clôturer un peu le débat. Hein, donc je pense que la fédération c'est un espace très très démocratique. Donc il y a à un moment donné il y a un règlement aujourd'hui qui fonctionne. Un règlement c'est une prise de décision cantonale. Donc je sais que ça règle pas tout, mais déjà c'est une prise de conscience au niveau des cantons sous le terme. Peut-être que ça va donner aussi un petit peu d'exemple et la fédération peut aider sur la prise de décision. Après la fédération, elle va avoir qu'une prise de décision au niveau départemental. Là on est sur des problèmes
nationaux et internationaux.
Ça va être très très compliqué. Et en sachant qu'aujourd'hui nous on pose un constat, on veut prendre des solutions chez nous, car en même temps on légalise la chasse aux appelants sans contrainte de tir au vol ou de tir opposé sur d'abord 68 départements et maintenant 75. Et je crois qu'il y a deux autres départements qui sont en demande et qui ne devraient pas tarder à l'obtenir. On va arriver à 77 départements. Donc, je peux vous assurer que déjà, il faudrait qu'on commence à réfléchir départementalement. Et puis, je vous dis, c'est un espace hyper démocratique. Il y a des assemblées générales. Là, je sais qu'il y a des collectifs qui se montent, des pétitions qui sont assignées. C'est pas pour critiquer. Ces pétitions, elles sont intéressantes pour savoir aussi combien de personnes qui sont concernées, qui se posent des questions. Et ça va aider les responsables politiques synergétiques à réfléchir sans doute. Voilà.
Merci Thierry.
Merci à vous.
Ça vous va ?
Oui, mais j'espère qu'on arrivera à trouver une solution et puis qu'on puisse continuer à chasser. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est retrouver de la palombe et qu'on puisse continuer à chasser dans les années à venir. Qu'on laisse pas quand même un désert à nos enfants. Surtout ça le problème.
Moi, je voudrais vous dire, Thierry, je m'appelle Jean-Baptiste, avant que vous ne raccrochiez, il faut que vous soyez optimiste parce que ça fait 10 ans que je pars de ce que vous venez de dire, exactement de ce que vous venez de dire à l'instant au téléphone. Et il n'y a que depuis cette année, je dis bien depuis cette année, que j'ai en face de moi Jean-Jacques qui me donne un petit peu raison, que j'ai Arnaud Fontaine de la Fédération qui veut jouer le jeu. Et tout ça, ça n'existait pas jusqu'à présent. Et maintenant, il y a de plus en plus de voix qui vont dans ce sens-là. Et croyez-moi, ça va se faire. Je vois ce que fait Arnaud Fontaine. Je crois que c'est un homme précieux au niveau de la chasse, hyper correct et tout à fait honnête. Et donc, on va pousser tout ça jusqu'à essayer de trouver une solution, monsieur.
Oui, il faut pour tout le monde. Merci à vous.
Merci Thierry.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir. Merci, au revoir. Peut-être commencer, départementalement. Pyrénées-Atlantiques, donner l'exemple, peut-être, justement.
Ouais, donner l'exemple départementalement. Après, aujourd'hui, on est en train de parler des chasseurs sous le thème qui sont privés de palombes, mais à côté de ça, on va prendre des mesures qui vont priver d'autres personnes aussi de mode de chasse.
Exactement.
Et ça, nous, en tant que fédération, il faut qu'on prenne
Exactement.
Il faut qu'on prenne vraiment conscience de tout ça, qu'on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas dire, on va rendre la palombe aux uns et la privée pour les autres. Donc voilà, c'est une réflexion qui est très compliquée. Je pense qu'elle n'a jamais été trop engagée, ça semble démarrer gentiment. C'est sûr qu'il faut aller vite, parce que moi, ça me ferait deuil quand même que la palombe déserte le Pays Basque, parce que la palombe et le Pays Basque, c'est une histoire d'amour, c'est culturel, c'est ancré dans le patrimoine. Surtout avec la soule.
Et même quand on est proche du Pays Basque comme toi.
tout à fait. Donc il va falloir faire quelque chose, ça c'est sûr. Commençons gentiment, parce que c'est vraiment un sujet très complexe.
Oui, c'est très compliqué. C'est sûr qu'il faut laisser chasser tout le monde et c'est vrai que c'est difficile. Mais je voudrais juste revenir un peu sur la pression de chasse qui est très forte. C'est vrai, comme je l'ai dit, on va pas revenir là-dessus, qu'on a fait un peu n'importe quoi à l'époque. On a laissé monter des chasses partout. On a. Attendez, je suis en train de bégayer parce qu'il y a un portable qui est quelque part et ça perturbe. Et c'était Arnaud Fontaine. Voilà. Je vous dis, cher auditeur, c'était lui.
Fallait pas lire.
Donc, pour en revenir à ça, moi, je reste persuadé que c'est cette pression de chasse. On a fait n'importe quoi. Et je voulais prendre un exemple que j'ai pas dit jusque-là. Lorsqu'on regarde la migration, et donc ça fait 40 ans quand même je suis dans le secteur, et mon ami Jean-Michel Bernard aussi, on se rend compte d'une chose. Il y a de moins en moins de palombes qui passent sur ce secteur, il y a de moins en moins de trides, il y a de moins en moins de grives. Il passe autant, et encore cette année beaucoup plus, de petits oiseaux, de pinsons, de chardonnerets, de grues, même si cette année elles sont en retard, ils en passaient aujourd'hui, mais ils en ont compté déjà pas mal en haut.
10 000 ans.
Des grues, ils passent des 1000 ans, les 1000 ans noirs sont en augmentation, les cette année il y a eu beaucoup de faucons pèlerins, l'ennemi des chasseurs en cabane et des pigeons, ils avaient passé dans le vent. En fait, tous les oiseaux qu'on ne tire pas ont gardé le même couloir. Tous les oiseaux que l'on tire partent ailleurs. Alors, je sais pas, c'est peut-être une idiotie que je dis, mais lorsqu'on constate cette année, il y a eu des milliers, enfin, peut-être des millions, je sais pas, d'oiseaux, c'était tous les jours, les petits pinsons et chardonnerets qui montaient sans arrêt, les grues, les éperviers, les milans, le milan royal. Bon, je me suis arrêté un jour à Rémi Deschka à les voir pour voir ces comptages de milans, c'est impressionnant, ils sont en augmentation de 10% ou de 4% par an. Ces oiseaux qui ne sont pas tirés passent au même endroit. Et ceux qui sont tirés ne passent pas. Je crois qu'il faut quand même se poser la question pourquoi.
Après Georges Dolorov, je crois qu'il n'est pas trop d'accord avec toi sur les grives. Hein. Il dit qu'il en a vu beaucoup, lui. Bon, enfin...
Oui, mais lui, il en voit beaucoup sur Oloron, mais elles ne montent pas.
Oui, d'accord.
Elles ne montent pas. Elles font comme les palombes, elles vont en travers.
Même les cormorans cette année.
Ouais. Et même les cormorans, on a vu des cormorans.
Alors Jean-Michel a compté les cormorans, raconte-nous comment c'est.
Eh bien, cette année, on a vu des vols immenses de cormorans, 40, 50, 60, passés cette année. On a eu beaucoup d'étourneaux aussi. Et comme disait Jean-Jacques, depuis le 1er octobre, on a vu des millions de petits oiseaux.
Ah oui, c'était impressionnant.
Jusqu'au 11 novembre, tous les jours.
Ouais. Et ça a duré longtemps. Et
malgré le vent fort du sud-sud-ouest.
Oui, mais eux continuent à monter. Et c'est vrai que on peut se poser cette question, ce qui n'est pas tiré continue à passer, ce qui est tiré ne passe plus. Bon. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais...
On ne voit plus d'alouette non plus.
Monsieur Jean-Jacques, il n'y a qu'une seule solution, c'est la pression de la chasse. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Il n'y aurait pas cette pression de la chasse, eh bien, il y aurait des palombes qui monteraient sur la roue. Le problème, c'est que si tu veux que la palombe monte sur la roue, tu vas empêcher des chasseurs en basse soule de chasser. C'est un... le serpent, il se mord la queue, là.
Alors après, il y a deux choses. Or, effectivement, on peut se dire qu'il faut limiter vraiment la chasse. On interdit le tir à certaines altitudes et compagnie. Ça peut être une solution, je ne sais pas si on va y arriver et si c'est très souhaitable. La deuxième solution, c'est aujourd'hui aussi, c'est poser une charte des tireurs au vol, par exemple, ou même des chasseurs en palombière. Ça veut dire que quand j'ai un oiseau qui est au-delà de 40 mètres, je ne le tire pas. J'évite de tirer avec du plomb 2 ou du plomb 1, je le réserve uniquement pour les battues au chevreuil. Ça ferait du bien d'ailleurs que beaucoup de chasseurs y aillent au niveau de la gestion du grand gibier. Il peut y avoir des règles simples, à un moment donné, de bon sens cynégétique, je crois qu'il a été perdu. Et puis aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il y a tellement peu d'oiseaux qui rentrent qu'à la limite, on regarde même plus trop la hauteur parce qu'on est tellement content de les voir que de temps en temps qu'on les tire. Ouais. Mais c'est humain, je le critique pas, je le constate. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est ne serait-ce que ça, un petit peu de bon sens.
Ouais. Bon sens, c'est que dans le département et dans toute la France, on soit pareil. Quand tu circules en France, tu roules à droite, et bien au niveau de la chasse, tu roules à droite et tu roules à gauche. Il y a de tout, les palombes classées nuisibles vers le centre de la France, des départements qui tirent au vol avec
des pigeons,
y compris dans notre département, les cantons de Rugne et de Saint-Jean-de-Luz qui tirent au vol avec les appelants. Bon, c'est le bazar, c'est le foutoir, et il faut que vous, à la Fédération, vous preniez des décisions énergiques et draconiennes. Au moins pour essayer de réglementer cette chasse, que ce soit pas le bazar.
Oui, il y a eu une anarchie sur la chasse à la palombe, c'est vrai, on a fait n'importe quoi. Après c'est difficile à critiquer parce que on a fait venir du monde.
Tout à fait, Jean-Jacques.
Voilà, on a fait venir du monde économiquement, ça fait un boom énorme. On parlait de seconde saison.
Tout à fait.
Rappelle-toi, il y a 40 ans, quand les gens venaient acheter des cartouches à Montléon, c'est bon. C'était extraordinaire, les hôtels ont tourné, les commerçants ont tourné, enfin tout le monde travaillait énormément. Le syndicat de Soule gagnait de l'argent. et a pu faire les routes, les chalets, etc. Mais le problème, c'est que personne n'a bien mesuré les dégâts qu'on pouvait faire derrière. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, lorsque le syndicat de Soul l'a mis à l'époque, j'ai rien contre eux, c'était il y a 40 ans ou 50 ans, on commençait à créer, à inventer de nouveaux tirs au vol, Lugas et compagnie. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là. Pour répondre à la demande, en fait, parce qu'il y avait une demande énorme. On appelait ça les Bordelais à l'époque, qui venaient dans le coin. Ce monde qui venait, il fallait caser. Les propriétaires terriens, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu ça? Eh ben, ils se sont mis à louer les fougerets et les prairies. Et, on a réfléchi un peu sur ça, là. J'ai un copain qui m'a envoyé, au milieu de la route d'ailleurs, qui m'a envoyé un mail pour montrer le nombre de lignes, pas de postes, de lignes tir au vol qu'il y a depuis Barcus. Alors je conseille un jour de vous promener, de prendre Barcus et de venir vers la Madeleine. Le haut de Barcus, c'est un camp de concentration. Il y a des miradors partout autour de la route. Et on arrive en haut, il y a une barrière de feu, et on arrive derrière, et ça continue. Et à Orx, et à Lick, et à Tinture, et de Burquet jusqu'en bas. Et on a fait n'importe quoi. Plus les privés qui se sont mis à tirer la réserve d'Olsarte, il n'y a pas une palombe qui peut rentrer. Ça tire de tous les côtés devant. Donc, on a laissé faire ça. Aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais il va falloir peut-être en discuter.
Voilà. Je ne sais pas si ce sera si compliqué que ça, parce que il suffit d'avoir la bonne volonté de nos élus. Arnaud, qui est à ma droite, je sais qu'il a de la bonne volonté. J'ai dit que c'était un homme honnête et intègre.
Il va te payer le repas tout à l'heure, Arnaud. Tout ce que tu dis sur lui.
Non, mais regarde au niveau de la bécasse. Moi, je ne suis pas un chasseur de bécasse. Ma vie de chasseur, ça a été, et ce sera toujours, la palombe, uniquement. Mais je vois comment ça se passe au niveau de la bécasse dans le département. Il y a des règles strictes qui sont appliquées. Il y a eu des gens courageux pour prendre ces décisions, parce que là aussi, la bécasse, c'est un peu comme la palombe. Tu as des mordus et archi-mordus. Et tout se passe très, très bien. Alors, Arnaud, s'il te plaît...
Aide-nous.
Parce que tu ne vas pas m'aider à moi dans ma cabane. Moi, j'ai 65 balais, je ne vais pas chasser des années encore. Terrible.
Il y a moins de chasseurs de bécasse.
Il y a moins de chasseurs de bécasse. Mais il y a eu des règles strictes de prise et tout se passe très bien. J'ai l'impression.
Après, je vous rassure, j'ai envie de vous aider, parce que j'ai envie aussi de continuer à chasser dans les années qui viennent, parce que le glissement du couloir migratoire, je le vois, et j'ai pas à me plaindre, je me plains pas, on voit encore de la palombe chez nous, mais on sent quand même une tendance lourde qui se dessine. Et puis moi, j'ai envie que la palombe concerne tout le département, parce que ça veut dire que ça va répartir la pression cynégétique, alors que là, on est en train de la concentrer toujours en avançant. Et c'est ça le souci.
Et Arnaud, une question. C'est vrai que le glissement de palombe sur la côte, mais pourquoi elle passe si haute sur la côte depuis le lever du jour?
Elle prend de la hauteur, ça, très facilement, mais bon, c'est pas compliqué. Elle passe haute parce que la palombe, elle a adapté sa migration, son mode migratoire, à la pression qu'elle subit. Moi, j'en suis convaincu. C'est exactement comme un banc de sardines qui va se promener en mer. C'est quelque chose de très vulnérable, une sardine. Pour lutter contre les prédateurs, il se concentre. Bon, là, c'est pas une question d'altitude, mais c'est une question de concentration d'hommes d'oiseaux. La probabilité de se faire bouffer, elle est moindre. Là, les palombes, elles se concentrent en nombre. La probabilité de se faire tirer, elle est moindre. Et elle prend d'altitude parce qu'à 300 mètres, quand même, on la tire pas.
Mais elle passe haute, mais elle passe très, très haute.
Elle passe très, très haute. De toute façon, la chasse se fait pratiquement uniquement sur des oiseaux de recul. Mais il faut quand même savoir qu'Urugne, 840 000 palombes comptées en passage, 220 000 en retour. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même, ça fait beaucoup plus que le palombe en passage
à Iratique,
le retour
à Urugne. Ça fait 10 ans d'Iratique.
Voilà. Donc forcément.
Bon, merci messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Optimiste quand même, Jean-Mathieu.
Moi très optimiste.
Pour les jeunes cette année, allez, oui.
Bon, les jeunes, je sais pas. Tu sais, les jeunes dans l'école, il y en a peut-être quelques-uns. Jean-Michel pourra me dire, il y en a pas.
Malheureusement.
En cabane, il y en a très peu. À côté de ma cabane, dans la forêt de Beaumartin, il y a deux jeunes qui chassent. Je suis ravi de les voir. Ils ont 25 ans chacun. C'est magnifique. Mais sinon, j'en connais pas d'autres. Et donc, je vois pas. Mais je suis quand même optimiste, parce que vraiment, il y a des gens qui ont, comme Jean-Jacques, comme Arnaud. Comme l'association dont tu as cité tout à l'heure, de Tardets, là, Jean-Jacques, c'est des gens qui en veulent et qui feront en sorte que l'anarchie qui existe soit battue.
Que Dieu t'entende.
Merci Jean-Michel, continue à en donner les chiffres. Oui, pas de problème.
Non, Jean-Jacques avait...
Oui, mais Jean-Jacques, je vais y arriver.
on compte sur toi hein, pour la, les comptages.
Pas de problème.
La réunion, il va l'organiser, il n'y a pas de problème.
Et je crois que Jean-Michel restera au Dichard jusqu'à mourir. Hein.
Ouais.
Même s'il n'y a plus de palombes.
Ah, ce
ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a ramassé énormément de cèpes cette année.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Ça compense un petit peu.
Bah, non, on n'a pas vu, sans pis. Et donc, ouais, et puis on a reçu beaucoup de courriers. Et Jean-Jacques, bon, tu avais...
Oui, j'avais déjà répondu.
T'avais répondu et on t'a re-répondu.
Il m'a écrit de nouveau, enfin il a été écrit à toi, pardon, ce chasseur de l'Ariège qui a l'air très sympathique, parce que j'ai le papier devant. Alors, je lui renouvelle mon invitation, il peut venir quand il veut. J'aimerais qu'il vienne pour lui faire voir comment on chasse ici. Il est chasseur de cabane aussi. Bon, je vais lui confirmer que je n'aime pas du tout les chasseurs qui tirent les palombes en les faisant baisser avec les pigeons, parce que derrière ça nuit énormément aux chasses en palombière. Et Arnaud nous racontait tout à l'heure, il a pris quelques palombes, il fait poser sur des vols de 1000 palombes, ils en font poser une. Et lorsqu'on regarde palombes.com, comme j'ai regardé encore tout à l'heure, c'est le leitmotiv de tout le monde. Tout le monde dit la même chose. On n'arrive pas à les poser, elles sont très dures à poser. Tu m'étonnes, elles prennent des coups de fusil partout. Et elle a compris que le pigeon aussi, ça pouvait nuire. Mais j'aimerais quand même lui faire voir le coin, parce que lorsqu'on parle de pression, je ne pense pas, tout à fait honnêtement, je ne pense pas que dans le département des Pyrénées-Atlantiques et peut-être en France, il y ait autant de pression qu'en Soule. Je ne crois pas. Pour m'être promené un peu dans le département et un peu partout, je ne pense pas, je n'ai jamais vu en passant ailleurs autant de miradors, autant de cabanes. Et pour en revenir aussi à cette pression de chasse, on va aussi dire deux mots sur les cabanes. C'est vrai qu'il y en a peut-être trop maintenant. Les chasseurs comme nous, qui chassons en montagne, on est tous en train de réfléchir pour les chasser ailleurs. Donc on va encore recréer des postes de chasse. On va encore rentrer dans les équipes. Et c'est vrai que la palombe, en dehors du tir au vol, qui lui fait très mal, lorsqu'elle veut se poser dans un mois, elle ne peut plus se poser. C'est devenu de la folie. Donc c'est cette pression de chasse qu'il faudrait quand même un jour réglementer.
Merci à tous. Juste terminer très rapidement, on va signaler que le samedi 1er décembre, il y a le fameux rendez-vous des filetiers, donc cette année aux Aldudes. Je ne sais pas si vous intéresse, pour vous donner les chiffres définitifs. Donc à Napal, ils ont arrêté aujourd'hui. 1200, c'est le chiffre définitif, c'est 1286. Puisqu'ils en avaient pris 3 encore mercredi et 6 hier. Voilà, ils ont fini hier soir, 1286. Oskish, 848, tant pis, ça y est, il avait annoncé 800.
Il est content.
Par contre, Gategouen, on est resté à 44. L'Antabat, 662, on a eu confirmation avec M. Etchegaray, donc ça n'a pas bougé. Et on vient d'arrêter, là aussi. Donc là aussi, ils ont fait un joli chiffre, 1745, c'est confirmé aussi. Confirmé, l'écumerie, on a terminé mercredi à 480, un chiffre rond. Voilà, c'est pour l'écumerie, l'antabat, c'est pas terrible. Les aldudes, en fait, c'est 453. On a continué à chasser dans la semaine et on en a pris 17 de plus. Donc, aldudes 2, 453. Sar, 49, malheureusement. Et Etchalar, un joli chiffre, 927. Voilà, je voulais quand même donner ces chiffres définitifs qui seront redonnés dans le 1er décembre aux Aldudes, donc, où ils vont se réunir tous. On sera là-bas et on en reparlera, évidemment. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à Radio Palombe et à Radio Ménélili.
Et l'année prochaine.
Restez avec nous, il y a le tirage du jeu dans quelques instants.
L'auberge du Platane, maison Brigettille à Saint-Just-Ibar. Auberge du Platane, restaurant spécialité palombe, grillé, flambé.